Les cinéphiles, Sandra.
Bonsoir, bienvenue chez les cinéphiles qui vont vous emmener ce soir dans les magnifiques paysages de la Drôme grâce à l'incroyable histoire du facteur Cheval, le film en ce moment dans les salles. Nous en apprendrons un peu plus sur cet homme qui a passé 33 ans à construire son palais idéal. Raphaël Chevalet vous présentera les sorties de la semaine. Raphaël Girardin, lui, vous tiendra informé de tout ce qui se passe. Ce sera pour le flash de 18h30. Et juste après le jeu, qui vous permettra peut-être de remporter des entrées ciné dans vos cinémas Cinépel et Cinévital, bande originale se déplacera au Beau de Provence grâce aux extraits de la bande son de Jean de Florette et Manon Dessources. Belle échappée dans les cinéphiles, on s'évade jusqu'à 19h.
Les cinéphiles, les sorties.
Bonsoir Raphaël, bienvenue.
Bonsoir Sandra.
La frontière entre l'intime et le professionnel se brouille dans l'ordre des médecins, la réalisation de David Roux.
Oui, effectivement. Lui, c'est un pneumologue et fumeur invétéré, donc un médecin chef qui est assez aguerri et qui a appris à se forger une carapace pour ne pas trop se lier à ses parents, surtout lorsqu'il sait qu'ils sont condamnés. Évidemment, ça se complique, cette frontière se brouille lorsque sa mère, qui est jouée par Marthe Keller, va être hospitalisée dans un service voisin. Et le diagnostic est assez sévère, c'est un cancer. Et là, il ne parvient plus à distinguer l'intime du professionnel. En partie autobiographique, ce film raconte ce dilemme. Il est servi évidemment par Marthe Keller, qui est sublime de subtilité. Et c'est aussi ce film une plongée dans le monde de la médecine, qui est un peu parfois jet-set. On voit les fêtes du Nouvel An, etc. Ça semble assez exagéré, mais paraît-il que c'est vrai.
On verra tout ça donc à partir de mercredi. Et mercredi également sur grand écran, Si Beale Street pouvait parler, nous emmènera dans le Harlem des années 70.
Oui, c'est le nouveau film de Barry Jenkins qui avait été doublement oscarisé avec Moonlight. Là, il revient avec un drame d'un couple afro-américain qui est confronté à une justice pour le moins arbitraire, puisque vous l'avez dit, ça se passe à Harlem dans les années 70. C'est l'histoire d'un couple qui vont se marier, ils vont accueillir leur premier enfant, mais le fiancé va être accusé de viol et mis en prison. Et malgré ça, les deux amants se promettent de vivre leur amour. J'en dis pas plus, sauf que le film est tiré d'un roman de James Baldwin, qui est un écrivain afro-américain qui a une œuvre passionnante liée à la ségrégation et aussi à l'homosexualité. Et puis donc le film Si Beale Street pouvait parler dépasse cette simple histoire d'amour impossible pour nous ramener à la discrimination systématique des classes populaires afro-américaines qui est toujours à l'œuvre aux États-Unis. Grâce à son talent de metteur en scène, le cinéaste confère à son drame du passé une dimension troublante d'actualité, vraiment, c'est un film à voir cette semaine.
Un autre film à voir cette semaine, c'est le deuxième volet de Minuscule, un film qui ravira petits et grands.
Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde. Donc moi j'avais déjà aimé la série télé, qui était déjà très réussie. Ensuite il y a eu cette première adaptation cinéma, qui était aussi très réussie. Et là c'est de nouveau l'histoire de la coccinelle, la fourmi, l'araignée, etc. Et elles vont tenter cette fois de sauver une petite coccinelle qui s'est retrouvée piégée dans un carton et envoyer Fissa aux Caraïbes. Donc évidemment c'est un film qui a de nouveau ce mélange d'insectes en images de synthèse avec des décors en prise de vue réelle. Et puis ce qui est surtout génial, je trouve, dans Les Minuscules, c'est cette façon d'utiliser la bande son sans parole, les personnages insectes parlent en borborygme, mais on comprend tout, c'est assez drôle. Et puis ça réinvente un peu la vie des insectes, on s'amuse à faire le tri entre le vrai et le faux par rapport aux insectes. Et puis c'est aussi un film avec un message positif qui valorise l'entraide et la solidarité. Vraiment, c'est réussi de bout en bout.
Alexia, Kevin et Romain sont trois adolescents et ils sont à l'affiche dans le documentaire du Suisse Adrien Bordone.
C'est un jeune cinéaste, son premier long métrage, il est issu de l'ECAL, Adrien Bordone, il vient de Bienne, je crois, sauf erreur. Et là, il a fait un documentaire qu'on appelle un documentaire d'immersion. Et il est allé à l'institution qui s'appelle Perceval, sur les rives du lac Clément, pour les adolescents qui souffrent de ce qu'on appelle une déficience intellectuelle. Et il en a suivi trois jeunes de 17 ans qui vont devoir choisir à leur majorité ce qu'ils vont faire après l'institution, donc soit trouver un apprentissage s'ils y arrivent, soit trouver un autre foyer. Et ils s'intéressent vraiment à ce qu'eux veulent. Ils essaient de montrer justement ce qu'eux désirent comme avenir. Et c'est tout l'intérêt de ce film qui est assez poignant, assez touchant. Un film sur la quête d'autonomie qui aussi par la bande dénonce un petit peu une société un peu impersonnelle et intolérante. Et le cinéaste sera présent ce soir à Bienne à 20h15 au cinéma Rex pour présenter le film. Et puis jeudi 31 janvier à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Au revoir Raphaël, un grand merci d'avoir été parmi nous ce soir et belle semaine.
Belle soirée à vous Sandra, merci.
Les cinéphiles, la critique.
L'incroyable histoire du facteur Cheval, la dernière réalisation de Nils Tavernier, est en ce moment dans les salles. Le film réunissant Laetitia Casta et Jacques Gamblin narre l'histoire de cet homme qui passa le tiers de sa vie à construire un palais. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Joseph Ferdinand Cheval est facteur et chaque jour, sa tournée l'emmène de village en village parcourir les coins et recoins de la Drôme. Cet homme solitaire voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec Philomène qu'il épousera en deuxième noces. Une femme fraîche, pétillante, qui lui donnera une fille, Alice. Et pour prouver à cet enfant son amour fou, il décide de lui construire de ses propres mains un incroyable palais, le palais idéal. Cet homme à l'allure ordinaire, entre les épreuves que lui inflige la vie, passera 33 années à construire cette bâtisse extraordinaire, classée comme monument historique en France. Le réalisateur, Nils Tavernier, est connu pour filmer des êtres un peu lunaires. Avec le tempérament du facteur Cheval, il a eu donc de quoi se délecter, puisque l'homme était solitaire, pudique, un brin sauvage. Autour de cet être, le réalisateur a réussi à faire un magnifique récit, tout en douceur, comme le tempérament de son héros. Un héros simple, introverti, parfois taiseux, au caractère qui peut surprendre dans le premier quart d'heure du film, mais auquel on s'attache, même si on comprend difficilement son pari un peu fou de bâtir un tel édifice. Les paysages du film sont à couper le souffle et nous transportent au cœur de la Drôme. Les chants d'oiseaux et la magnifique de la nature nous aident à oublier quelques longueurs. Il est vrai que si Jacques Gamblin interprète merveilleusement bien le facteur Cheval face à une Laetitia Casta plus belle que jamais, le film demande une attention particulière. En effet, l'homme est peu causeur. Tout est dans le regard et la prestance de l'acteur qui joue superbement bien le rôle de quelqu'un qui tout au long de sa vie préféra le silence aux mots. Le personnage quasi analphabète ne dégage que peu d'émotions, c'est un peu perturbant. Les quelques moments solaires de ce long métrage ont les doigts à la prestation de la radieuse Natacha Lindiger et à l'humour et la poésie d'un Bernard Lecoq qui, avec finesse et humour, complète le tableau. Un tableau empreint par quelques noirceurs, mais qui, au final, reste coloré et lumineux, qui nous donne envie à la sortie de la séance, en plus d'en savoir un peu plus sur le personnage que fut le facteur Cheval, de se rendre à Haute-Rive, France, afin d'aller admirer le palais idéal. Si vous aimez les belles romances et les beaux paysages, vous serez conquis et ravis par cette histoire plus qu'incroyable, parfaitement mise en scène par le fils de Bertrand Tavernier.
Je vous ai jamais vu.
Facteur Cheval.
Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben je rêve. Je suis bien quand je marche.
Cheval ! C'est une fille.
Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire.
Et tu veux faire ça quand ?
Le soir, la nuit, après ma tournée.
Mais tu es fou.
Il est pas fou, mon père.
Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel.
Je dois finir.
Tu vas nous faire mourir.
Alice !
Tu vas guérir, Alice. Ne me laisse pas tout seul.
Les cinéphiles, coup de projecteur.
Et ce soir, chez les cinéphiles, je vous propose de nous rendre dans les couloirs du terrain de jeu de la fille du facteur Cheval et d'en apprendre un peu plus sur le palais idéal. Inspirée de cartes postales d'Inde et de tableaux bibliques, la bâtisse du facteur Cheval est composée de différents styles architecturaux et ce mélange est une ode au mouvement du 19e. Selon les historiens, le facteur Cheval aurait débuté son travail en 1879. C'est la même année, en avril, que durant sa tournée, il bute contre une pierre d'une géométrie curieuse qu'il appellera sa pierre d'achoppement. Il découvre au même endroit d'autres pierres aux formes particulières et selon lui, plus belles les unes que les autres. Entre rêverie et idéaux, il décide alors de se former en architecte, maître d'ouvrage et maçon, le temps de réaliser ce palais en cadeau à sa fille afin de lui prouver son amour infini. Durant 33 années, le facteur, durant sa tournée, va rapporter des pierres de toutes les formes et grandeurs dans ses poches, au panier ou encore à l'aide d'une brouette. Il les empilera et les fera tenir avec de la chaux et du ciment. Et c'est souvent à la lueur de sa lampe à pétrole qu'il tentera de concrétiser son rêve sans considérer les risques d'accident et sans compter ses heures de labeur. La bâtisse terminée mesure 12 mètres de haut et 26 mètres de long. Cheval achève la construction de son palais en 1912. Ne pouvant être inhumé dans ce palais selon son souhait, il construit de 1914 à 1922 son tombeau au cimetière. Il meurt le 19 août 1924. Au début des années 30, Pablo Picasso, Max Ernst et André Breton sont fascinés par l'œuvre. Et en 1964, l'écrivain André Malraux appuie une procédure de classement auprès des fonctionnaires du ministère de la Culture qui qualifie le palais d'hideux. C'est finalement comme représentation de l'art naïf que le Palais Idéal sera classé comme monument historique de France. Ils sont des milliers chaque année à visiter le Palais Idéal, un bel hommage pour cet homme simple qui fut longtemps considéré comme fou.
Les cinéphiles.
Et c'est maintenant que vous avez la parole puisque c'est à vous de jouer dans les cinéphiles et vous devez tenter de trouver le titre d'un film grâce à un extrait. Alors j'ai décortiqué une bande annonce, j'ai pris les meilleurs morceaux de cette bande annonce et ce sera donc ce soir cet extrait qui dure 20 bonnes secondes, donc soyez attentifs. C'est assez, comment dire, difficile, oh oui c'est plus difficile que les autres soirs, mais si vous avez trouvé le film qui se cache derrière la bande annonce, annonce qui va suivre, eh bien vous appelez le 0901 70 20 20 et deux entrées pour vous rendre à la séance de votre choix avec la personne de votre choix dans nos cinémas Cinémon, Cinépel et Cinévital sont pour vous. Vous êtes prêts ? C'est parti. On cherche ce soir un film adapté du roman d'Henri Cueco, un film de 2007 réalisé par Jean Becker qui met en scène Jean-Pierre Darroussin et Daniel Auteuil pour les rôles principaux.
Les cinéphiles.
J'aimerais bien que tu me payes des choses qui me tiennent à cœur.
J'en ai rien à foutre de la peinture. J'en ai marre de rester des heures devant une toile comme une vache devant une locomotive.
Je crois bien que j'ai jamais réussi des légumes aussi beaux. On dirait que ça leur plaît de voir leur jardinier couché près d'eux.
Et tu t'appellerais comment, toi, si t'avais le choix ?
Du jardin.
Et moi, alors ?
Du pinceau. Pleuvra pas demain encore.
Ah, tiens.
J'ai dit demain. J'ai pas parlé de ce soir.
Les cinéphiles.
Et nous avons quelqu'un en ligne, bonsoir. Eh bien non, on n'a plus personne en ligne. Eh bien oui, on a de nouveau quelqu'un en ligne, bonsoir. Eh bien non, on n'a personne. Eh bien, on retente le coup. Donc, on cherche un film ce soir de 2007. Un film qui réunit Jean-Pierre Darroussin et Daniel Auteuil pour les rôles principaux. Un film adapté du roman d'Henri Cueco. Un film donc réalisé par Jean Becker. Et oui, c'est assez difficile ce soir. J'ai été moins sympa que les autres soirs. 0901 70 20 20, si vous trouvez donc qui se cache... quel film se cache derrière cette bande-annonce que j'ai décortiquée. Il s'agit de l'histoire du pinceau et du jardin. Une très belle histoire. Alors, si vous savez, si vous avez la réponse, eh bien, donnez-la-moi.
Allô ?
Oui, allô ? Il y a quelqu'un en ligne ? Allô, allô ? Oui, je vous entends très, très loin.
Ok.
Mais je vous entends.
C'est pas beaucoup.
Ne bougez plus, là, c'est parfait. Je vous entends. Non, je ne vous entends plus. C'est fantastique. Déplacez-vous à gauche, à droite. Je vous ai toujours en ligne, mais par contre, je vous entends difficilement.
Allô ?
Oui, là, je vous entends. Vous êtes tombé ou bien il y a eu quelque chose ?
Non.
Bon, alors...
C'est compliqué.
Voilà, on ne bouge plus, on fait tout doucement. À qui ai-je l'honneur ?
À Nathalie.
Bonsoir Nathalie. Nathalie, vous m'appelez d'où ?
Quoi ? De Courtetel.
Alors, Nathalie de Courtetel, est-ce que vous pensez que vous avez trouvé le titre du film qu'on cherche ce soir ?
Ben, c'est un peu difficile aujourd'hui. Hein.
Ah ah ! Eh oui, hein, on ne va pas toujours la jouer facile non plus. Alors, c'est difficile en effet, mais est-ce que vous pensez avoir trouvé ?
Ce dialogue avec le jardinier.
Mais c'est ça. Eh bien oui, malgré tout, vous avez trouvé. C'est juste, est-ce que vous l'avez vu ce film de Jean Becker ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Alors il faut absolument vous arranger pour le voir. Il fait partie des chefs-d'œuvre cinématographiques. Promis, vous allez faire ça, n'est-ce pas ?
Je vais le mettre dans ma liste, ouais.
Alors, en tous les cas, c'est vous qui remportez ces deux entrées pour vous rendre à Cinémon, Cinépel ou Cinévital avec la personne de votre choix. Est-ce que vous savez déjà ce que vous irez voir, Nathalie?
Je ne sais pas trop, non, c'est en fait. Je n'ai pas encore trouvé ce qui me plaisait encore.
Ok. Non. Eh bien, vous aurez le temps de réfléchir puisque vous avez une année donc pour vous rendre à la séance de votre choix avec la personne de votre choix. Donc, vous restez avec moi, s'il vous plaît, Nathalie, hors antenne, que je puisse prendre vos coordonnées. Un grand bravo, félicitations d'avoir trouvé cet extrait qui, en soi, n'était pas, enfin, ce film qui, en soi, n'était pas très facile. Une très belle soirée, vous ne quittez pas et à très bientôt.
Merci.
Les cinéphiles, bande originale.
En 1986, le réalisateur Claude Berry signe le film Jean de Florette, adapté du roman éponyme de Marcel Pagnol que l'auteur réalisa en 1952. La version de Claude Berry aura un deuxième volet l'année suivante, Manon des Sources. Retour dans bande originale sur la bande-son de ces deux chefs-d'œuvre cinématographiques acclamés par le public et encensés par la critique. La musique du film est signée Jean-Claude Petit. Le compositeur français est connu dans le monde du cinéma. Il a commencé sa carrière de musicien comme accompagnateur de plusieurs jazzmen, a effectué ses études au Conservatoire supérieur national de Paris, reçu plusieurs récompenses et travaillé pour le monde des variétés. Il a réalisé les arrangements de Claude François, Julien Clerc, Sardou, Beko et Sheila.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis.
Le compositeur débute dans le monde du cinéma comme nègre musical dans les années 80. Il rencontre le succès grâce à la musique du film Jean de Florette et Manon des Sources. Et en 1990, les Césars et les Victoires de la Musique le récompensent pour la bande-son de Cyrano de Bergerac du réalisateur Jean-Paul Rappeneau. Il a également posé sa patte musicale sur les bandes originales des Misérables, du Château des Oliviers, du Hussard sur le Toit et d'autres monuments cinématographiques français. Il a composé l'album Babel de Philippe Catherine et a collaboré pour Pascal Obispo sur son album de 2016, Billets de femme.
Si c'est ainsi qu'une seconde vie peut se rouvrir pour s'écouler sous une autre asservie sans trop souffrir. Par ce billet, parole de mon âme qui va vers toi. Ce soir où veille et te rêve une femme.
Pour la musique du film de Jean de Florette, ce fut la première rencontre pour Jean-Claude Petit avec le réalisateur Claude Berry. Ils se retrouveront l'année suivante pour le second volet du film qui narrait les aventures de Manon des Sources. Jeune femme est interprétée cette année-là par la sublissime Emmanuelle Béard. Sublissime aussi, le morceau phare du film interprété par Serge Lama. L'espace d'un titre, on se rappelle au bon souvenir du Golin, du Papet et des Chandeliers.
Elle chante et moi je crie. Elle rit et moi je pleure. Elle rêve. Et moi je prie, elle danse et moi j'en meurs.
Serge Lama dans la peau d'Hugolin pour cet hommage à Manon Dessources, la version chantée de la bande originale du film Jean de Florette et Manon Dessources, une bande originale composée par Jean-Claude Petit. Et c'est sur ces airs de Serge Lama que je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 18h20 pour un nouvel épisode des Cinéphiles. Au programme, eh bien, bande originale, les sorties de la semaine, ce sera en compagnie de Vincent Haddad. Et puis, la critique et les coulisses d'un film, lequel je ne sais pas encore, j'hésite, figurez-vous, entre Green Book et Green Book. Donc ce sera peut-être Green Book ou pourquoi pas Green Book. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver la semaine prochaine. Du coup, belle semaine.
Les cinéphiles.